écoutons la parole de Dieu. Je vous invite à suivre la lecture de l'Écriture sainte dans l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 4, les versets 14 à 30. Luc 4, 14. Jésus retourna en Galilée avec la puissance de l'Esprit. Le bruit s'en répandit dans toute la région. Il enseignait dans leur synagogue et il était glorifié par tous. Il vint à Nazareth, où il avait été élevé, et il se rendit à la synagogue, selon sa coutume, le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Il déroula le livre et trouva le passage où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a conféré l'onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour proclamer une année d'accueil de la part du Seigneur. » Puis il roula le livre, le rendit au servant et il s'assit. Les yeux de tous dans la synagogue étaient fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire, « Aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Tous lui rendaient témoignage, étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il disait, « N'est-ce pas le fils de Joseph ?» Il leur dit, « Certainement vous me citerez ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, tout ce qui s'est produit à Capernaum, selon ce que nous avons appris, fais-le ici aussi, dans ton pays. » Il leur dit encore, « Amen, je vous le dis, aucun prophète n'est bien accueilli dans son pays. » En vérité, je vous le dis, il y avait beaucoup de veuves en Israël au jour d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois et qu'il y eut une grande famine sur le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve de Sarepta, dans le pays de Sidon. Il y avait aussi beaucoup de lépreux en Israël, au temps du prophète Élisée. Et cependant, aucun d'eux ne fut purifié, mais Naaman, le Syrien. Lorsqu'ils entendirent cela, tous dans la synagogue furent remplis de fureur. Ils se levèrent, le chassèrent hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la montagne sur laquelle leur ville était construite, afin de le précipiter en bas. Mais lui passa au milieu d'eux et s'en alla. Notre Église médite depuis quelques semaines, sous la conduite du pasteur Thierry Huser, ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Dans l'Évangile selon Matthieu, immédiatement après le récit de l'introduction de Jésus dans son ministère public, c'est ce sermon qui est présenté, une sorte de discours-programme qui déploie tout ce que signifie le royaume de Dieu que Jésus est venu apporter sur la terre. Dans l'Évangile selon Luc, Luc, le médecin bien-aimé, le compagnon de l'apôtre Paul, nous avons un éclairage complémentaire. Nous avons plusieurs évangiles parce qu'ils nous donnent des éclairages complémentaires sous divers angles de vue. Et ce que nous trouvons après l'introduction de Jésus dans son ministère, après son baptême, l'épreuve de la tentation au désert, c'est le récit que nous venons de lire. Luc a été conduit par l'Esprit de Dieu à mettre en tête du récit cette présentation de la visite de Jésus à Nazareth où il avait été élevé. Jésus chez les siens. Ce n'était sans doute pas le premier épisode dans l'ordre chronologique réel de la vie de Jésus. Car il nous est bien dit au verset 14 que Jésus avait déjà travaillé en Galilée, c'est-à-dire la partie nord du territoire qu'habitaient les Israélites, et sa réputation avait déjà grandi, s'était déjà répandue, donc il y avait déjà un certain temps qui s'était écoulé. Et dans l'évangile selon Jean, au chapitre 4, verset 3, il nous est dit qu'avant cela même, il avait déjà accompli une partie de ministère en Judée, la partie sud, près de Jérusalem. Donc ce n'était pas au tout début, mais si Luc a été conduit à placer cet épisode en tête, c'est sans doute qu'il y a vu et voulu nous montrer comme un raccourci de toute la mission de Jésus, de la manière dont elle s'est déroulée avec sa signification. Et nous faisons bien donc de scruter ce qu'il nous rapporte. Si nous voulons connaître mieux Jésus, si nous voulons comprendre mieux ce qu'il en a été de sa mission, je pense que ce passage peut nous enrichir et préciser les choses. Je distingue trois moments principaux dans le récit qui nous a été fait et qui peuvent se distinguer selon les réactions qui nous sont présentées de l'auditoire de Jésus. Le premier moment correspond à leur attente intense, les yeux fixés sur lui. Ils attendent ce qu'il va dire, au verset 20. Le deuxième moment correspond au verset 22. Il s'agit de leur réaction, dont nous verrons qu'elles sont assez mélangées. Ils s'étonnent, ils discutent pour savoir tout ce que cela veut dire. Et puis la troisième réaction, c'est celle qui nous est présentée à la fin du récit, à partir du verset 28, la fureur qui s'empare d'eux, la rage meurtrière qui tout à coup saisit le grand nombre de ceux qui sont là à Nazareth. Je vais proposer trois formules, je vous l'ai dit d'avance, comme ça vous verrez à quelle vitesse nous progressons, pour correspondre à ces trois moments du récit. Pour correspondre au premier moment, je dirais l'Écriture s'accomplit aujourd'hui. Pour le deuxième moment, c'est la réaction de l'auditoire qui est en cause. Je vous suggère la formule « c'est bien beau, mais… » C'est bien beau, mais… Et puis, pour la troisième partie, la formule qu'on trouve dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean. Dans le premier chapitre de l'Évangile de Jean, il nous est dit « il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu ». Les siens ne l'ont pas reçu. Fixons les yeux de notre imagination sur la scène qui nous est racontée. Jésus, cet homme dans la trentaine, encore jeune dans la force de sa jeune maturité, qui remue ailleurs les foules, revient dans la bourgade où il a passé enfance et jeunesse, chez les siens. Les siens, ce sont d'abord les membres de sa famille. Il y a des frères et sœurs, d'après d'autres textes, qui habitent encore à Nazareth. Ce sont ses compatriotes, ses concitoyens de cette petite ville, de ce gros village de Nazareth. Je pense qu'on peut dire qu'il représente l'ensemble des Juifs. Ce sont les siens pour Jésus. Jésus est né juif. Et le mystère d'Israël, dans toute l'Écriture, c'est qu'il a été choisi pour représenter l'humanité. Les Juifs représentent tous les humains dans leur réaction et situation fondamentale devant Dieu. Jésus est né homme, comme un petit enfant des hommes. Et donc, nous sommes, en tant qu'homme aussi, les siens. Jésus vient chez les siens. À son habitude, il se rend à la synagogue. Et là, je note au passage que Jésus est un modèle quant à l'habitude de fréquenter le lieu de culte le jour mis à part pour le culte. Vous avez parfois des gens qui sont contre les habitudes. Jésus avait une habitude, et comme à l'accoutumée, il se rend, au jour prescrit, au culte de la synagogue. Voilà qui peut, me semble-t-il, nous servir aussi d'exemple. Surtout que le culte de la synagogue, c'est sans doute celui qui se rapprochait le plus du culte que l'Église primitive ensuite a pratiqué. L'Église primitive a sans doute suivi le modèle synagogal avec deux éléments principaux pour le constituer, la prière, louange, raquette adressée à Dieu, et l'instruction selon la parole de Dieu, l'explication de l'Écriture sainte. C'était les deux éléments principaux, sans doute aussi pour l'Église primitive. Et Jésus, donc, comme à son habitude, excellente habitude, va à la synagogue. C'était aussi une habitude des synagogues de laisser n'importe quelle personne capable, n'importe quel homme capable d'apporter la parole, prendre la parole si le chef de la synagogue le lui demandait. Et Jésus revient chez lui, il a déjà une certaine réputation, donc le chef de la synagogue lui confie cette tâche. Le sacristain, nous dirions, le chazan en hébreu, lui remet le livre, qui est en rouleau à l'époque, le livre du prophète Ésaïe, et il lit le passage qu'il va expliquer. Et tous les yeux sont braqués sur lui. Il nous est dit qu'il a trouvé le passage. Il est difficile de savoir ce que ça veut dire exactement. Est-ce qu'il est tombé dessus providentiellement ? Est-ce qu'il l'a choisi en le cherchant d'abord ? Ou est-ce qu'il était déjà dans la liste ? On sait que par la suite, mais peut-être pas encore à l'époque de Jésus, on ne le sait pas. Par la suite, il y avait une liste des passages des prophètes qu'on lisait dans le culte de la synagogue. Peut-être était-ce le passage du jour, mais nous ne pouvons pas en être sûrs. Et finalement, peu importe. Le passage que Jésus lit est le début du chapitre 61 d'Ésaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, l'Évangile, aux pauvres, à ceux qui reconnaissent leur pauvreté et qui ne cherchent de secours qu'en Dieu. Cette prophétie du chapitre 61 d'Ésaïe, avec une ligne du chapitre 58 qui est ajoutée, c'est une annonce du nouvel exode. Le prophète Ésaïe s'adresse aux exilés israélites qui ont été déportés à Babylone et il leur annonce, à partir du chapitre 40, un nouvel exode. La nation a été constituée par le premier exode. Le peuple était captif, soumis à des travaux forcés en Égypte. C'était le bagne égyptien. Et Dieu les a délivrés par l'exode. Et maintenant, de nouveau, les Israélites sont captifs, cette fois des Babyloniens. Et le prophète leur annonce un nouvel exode, une nouvelle délivrance, plus belle que la première encore, que le Seigneur va accomplir en leur faveur. Et on discerne très bien, quand on étudie les chapitres 40 et suivants du prophète Ésaïe, que ce nouvel exode va être double en fait. Il va y avoir une première étape littérale, géographique, matérielle, comme l'avait été le premier exode. Le retour au pays qui va être permis et l'instrument de Dieu qui est nommé par le prophète Ésaïe à l'avance, l'instrument de Dieu sera le conquérant perse Cyrus qui après avoir triomphé des Babyloniens permettra aux Israélites de rentrer au pays. Ça c'est la première phase du nouvel exode matériel. Mais derrière cette première phase, il y en a une autre, le véritable nouvel exode où il s'agit d'être délivré, non pas de la captivité babylonienne, mais de la captivité du péché, des liens du péché et de la mort. Et ce nouvel exode, ce vrai nouvel exode, sera conduit par un nouveau Moïse, plus grand que Moïse, et que les prophéties là appellent le serviteur de l'Éternel, le serviteur du Seigneur. Au chapitre 61, je crois qu'on peut le montrer, c'est le serviteur qui parle, comme il parle par exemple au chapitre 49. Oui, le Seigneur m'a revêtu de l'Esprit de Dieu, m'a donné toute la puissance de son Esprit pour accomplir cette mission de libération et de guérison entière pour le peuple. Et le passage ajoute à la représentation du nouvel Exode pour annoncer cette libération, celle du jubilé. Dans la loi donnée par Moïse, au chapitre 25 du Lévitique, nous voyons que Dieu avait institué, après 7 fois 7 ans, une année d'accueil et de libération du Seigneur, où toutes les dettes étaient effacées, les dettes que les gens avaient contractées n'étaient incapables de régler finalement. Ils pouvaient rentrer dans le patrimoine, les propriétés familiales. Ceux qui étaient esclaves, qui avaient dû se vendre esclaves à cause de leurs dettes, étaient libérés. Le langage qu'emploie la prophétie est clairement le langage qui renvoie au chapitre 25 du Lévitique, à ce thème du jubilé. Ce sera ce que représentait cette figure de l'institution dans le calendrier d'Israël. Et Jésus donc cite cette parole avec cette proclamation. Aujourd'hui, à vos oreilles, ce que vous entendez, c'est maintenant que ça s'accomplit. Ce qui a été attendu par tant de générations, c'est maintenant. Accomplissement de l'Écriture. Ce qui veut dire qu'il annonce la libération et qu'il se présente implicitement comme le nouveau Moïse, le serviteur du Seigneur, qui annonce cette heureuse nouvelle et qui guérit les aveugles et qui libère tous les captifs. La concordance entre les prophéties et les événements que Jésus a accomplis, c'est une sorte d'authentification de l'un par l'autre. La prophétie se révèle vraiment une prophétie du Seigneur parce qu'elle s'accomplit, et ces événements apparaissent vraiment comme les événements que le Seigneur accomplit parce qu'ils étaient prédits. C'est la concordance qui donne là toute sa force de preuve à l'accomplissement des Écritures. Il me semble que nous pouvons méditer ce thème de l'accomplissement encore un peu plus profondément, aller un peu plus loin. Il y a accomplissement parce que l'attente est comblée, parce que les Israélites, ceux qui attendaient la délivrance d'Israël, attendaient depuis si longtemps, s'accomplit en effet. Dieu est fidèle à sa promesse. Après des siècles qui ont dû paraître longs, après des siècles, le serviteur apparaît et il va accomplir la délivrance promise. Jésus accomplit toute l'attente d'Israël. Mais Israël représente l'humanité, ai-je dit. Je pense qu'on peut dire que l'accomplissement est aussi l'accomplissement du vœu le plus profond de l'humanité. Même si ce vœu est réprimé, parce que le rêve est si souvent déçu, il y a chez tous les humains ce désir, cette attente, être délivré de la mort, être délivré de ces jeux de mensonges qui empêchent de voir clair, être délivré du poids du péché, de la dette encourue à cause de la désobéissance au commandement de Dieu, dont les humains savent quand même au fond d'eux-mêmes qu'ils représentent le bien, le vrai, la justice. Il y a ce vœu, et Jésus, en disant « cette parole s'accomplit aujourd'hui », nous annonce que l'attente des humains et l'attente de chaque humain parmi nous peut être comblée par lui aujourd'hui. Car l'aujourd'hui de la proclamation de Jésus à Nazareth, il résonne encore aujourd'hui pour nous. Il a ouvert un temps qui n'est pas encore refermé. Tant que résonne l'aujourd'hui, dit le Nouveau Testament, n'endurcissez pas vos cœurs. Saisissez l'offre du pardon et de la libération que le Seigneur fait retentir aujourd'hui. Réaction de la foule. Elle paraît d'abord favorable. Il nous est dit, il lui rendait témoignage, il s'étonnait des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche, et cela correspond sans doute à la popularité que Jésus a connue dans la première phase de son ministère. Cela, en quelque sorte, est représenté par cette réaction à Nazareth. Cependant, je note que les expressions ne sont pas exemptes d'une certaine ambiguïté. Témoigner, ça peut parfois se faire à charge, en vue de la condamnation. Alors, c'est peu probable ici, mais quand même. L'étonnement, il s'étonnait, n'est pas forcément positif. Et même le mot « parole de grâce », il peut vouloir dire des paroles qui portaient la grâce de Dieu, mais ça peut aussi vouloir dire des paroles gracieuses, des paroles charmeuses. Nous avons vu il y a 15 jours que le mot « grâce » peut aussi avoir cette signification dans l'Écriture. Et je pense que pour certains, dire « ce sont des paroles de grâce », ça correspondait un petit peu à « ce qui parle bien ». Oh, quelle éloquence ! Au chapitre 33 du livre du prophète Ézéchiel, nous avons une réaction de ce genre. Ézéchiel est un prophète qui annonce des jugements. Et pourtant, les gens autour de lui disent « Oh, mais c'est comme un chanteur de charme !» Et Dieu condamne cette attitude. Mais devant des prédicateurs de la parole, qui annoncent des choses d'un sérieux ultime, vous avez des gens qui se contentent du plaisir d'entendre un bon orateur. Chanteur de charme. Je me rappelle d'ailleurs que lors de la première grande campagne de Billy Graham à Paris, dans les années 50, les journaux l'avaient présenté comme un chanteur de charme. C'était là, en tout cas plusieurs journaux avaient choisi cette présentation-là. Et puis alors il y a la question qu'il se pose, qui montre qu'il y avait un mélange entre les personnes sans doute, mais mélange à l'intérieur des personnes. Réaction favorable, réaction défavorable. Il pose la question, mais n'est-ce pas le fils de Joseph ? Alors, pour certains au moins, ça doit vouloir dire, mais pour qui se prend-il ? Pour qui se prend-il ? C'est le fils de Joseph, nous le connaissons bien. Il a travaillé à la menuiserie chez nous. Ils n'ont pas tort, ce n'est pas faux de dire c'est le fils de Joseph. Car, bien que Joseph n'ait pas été son géniteur, que Jésus ait été conçu par un miracle dans le sein de Marie, Joseph a bien été son père légal, son père d'éducation, et même il n'avait pas la rivalité d'un père géniteur humain. Donc il a vraiment été père de Jésus, donc ce n'était pas faux de dire fils de Joseph. Mais ce savoir juste en lui-même était pour eux une occasion de chute. Nous allons voir comment, en considérant le troisième moment, les paroles que Jésus leur adresse. Mais avant de venir à ce point, je souligne quand même qu'il ne suffit pas de trouver du plaisir aux paroles gracieuses que Jésus a présentées. Il y a beaucoup de gens comme ça, pour être sauvés. Ça ne suffit pas. Sous l'ambiguïté des réactions de la foule et la question sur le fils de Joseph, n'est-il pas le fils de Joseph ? Jésus discerne un blocage mortifère. Dans le passage de Matthieu, qui est parallèle au chapitre 13 de Matthieu, il est question de leur incrédulité, carrément, leur incrédulité. Ce blocage s'exprime d'abord par l'exigence d'un miracle. Médecin, guéris-toi toi-même. Si tu es vraiment capable de faire tout ce qu'on raconte, alors vas-y, montre-nous. Ils veulent contrôler la situation. Ils veulent contraindre Jésus à faire la preuve devant eux, devant leurs yeux, car ce sont eux les juges. Et Jésus interprète ce blocage à l'aide d'un autre adage, d'un autre proverbe, que nous avons en français aussi. Nul n'est prophète en son pays. Qu'est-ce qui se passe quand si nul n'est prophète en son pays et qu'est-ce qui se passe pour Jésus à Nazareth, Jésus chez les siens? Le savoir détenu par ceux qui sont proches dans le pays même à l'origine, en l'occurrence c'est le fils de Joseph, ce savoir fait écran par rapport à la révélation que Dieu veut faire d'une vérité plus grande. C'est le fils de Joseph, c'est vrai, mais à cause de ce savoir vrai, ils refusent d'aller plus loin. Ils pensent qu'ils sont maîtres de la situation et ils croient pouvoir contrôler Jésus. Voilà le piège. Oui. Un savoir vrai. Ceux qui sont dans la pure ignorance, pour qui c'est un étranger qui arrive de loin, en quelque sorte, ils sont plus prêts à accueillir parce qu'ils ne savent rien. Il y a comme un champ vide et donc libre qui est laissé. Mais le savoir de ceux qui sont proches des siens agit comme une occasion de refus orgueilleux de ce que Dieu veut révéler au-delà. Et puis, il s'y mêle l'envie. Puisque nous sommes citoyens de la même ville, nous avons grandi ensemble, pourquoi lui et pas moi ? Oui, voilà la réaction des siens qui sont tout proches. On le sait, les jalousies entre frères, quand un frère est plus doué, quand un frère est plus avantagé, sont parfois très dramatiques, les jalousies entre frères. Les frères de Jésus n'ont pas cru en lui. L'évangile de Jean le dit, ses frères, Jean 7, verset 5, ne croyaient pas en lui. Et d'après l'évangile selon Marc, au chapitre 3, ils sont même venus en disant, il est fou, pour le ramener à la maison, le ramener au pas. Au chapitre 3 de Marc, au verset 21, et encore au verset 31, là, ils avaient entraîné Marie avec eux. Les frères de Jésus, jaloux de lui, pourquoi lui et pas moi. Et je remarque que Jésus dit bien, un prophète n'est pas reçu dans sa patrie. Un groupe humain peut très bien valoriser quelqu'un qui est issu de lui, un champion, mais parce qu'il représente le groupe, parce qu'il émane de lui en quelque sorte. Donc, il peut très bien recevoir avec tous les honneurs quelqu'un qui se rend illustre, mais un prophète, c'est autre chose. Un prophète ne tire pas son autorité du groupe duquel il vient. Et un prophète, il a souvent un message qui dérange quand même, hein, qui appelle à la repentance. Et alors, là, on n'en veut pas. Les mécanismes que je suis en train de décrire excluent. Cela a joué pour les habitants de Nazareth lors de l'épisode, et c'est en quelque sorte prophétique de la réaction d'une majorité en Israël. Là aussi, les siens ne l'ont pas reçu, parce qu'ils croyaient pouvoir savoir très bien ce qu'il en était. Ils le classaient dans les cases de leur représentation des choses et ils pensaient pouvoir être maîtres de ce que Jésus était. Ils l'ont rejeté. Et c'est aussi le cas de tellement d'humains que représentent les Juifs. Les mêmes réactions finalement. Les humains croient savoir qui est Jésus. Ah oui, un grand homme. Et ce savoir, qui en lui-même n'est pas faux, leur sert d'instrument pour rejeter la vérité complète et la vérité plus grande au sujet de Jésus. À nous, le Seigneur, et je vais y venir encore dans un instant, a fait la grâce de nous ouvrir les yeux quand même, malgré les réactions d'orgueil qui nous sont aussi naturelles. Mais méfions-nous quand même. Même si nous avons reconnu en Jésus qui il est, nous risquons de succomber au mécanisme du nul n'est prophète en son pays, nous aussi, en refusant des manières inattendues de Dieu d'agir parmi nous, ou même en refusant de discerner en Jésus ce que nous n'avons pas encore discerné de lui. Nous pouvons nous contenter d'une image qui reste encore trop pauvre de lui. Donc, faisons attention de ne pas refuser la liberté de Dieu dans sa révélation. Jésus continue dans les paroles qu'il adresse à l'auditoire en montrant que le mécanisme dont je parle, mécanisme du faux savoir ou du savoir qui joue un rôle faux et de l'envie, a aussi joué dans l'Ancien Testament déjà. Le savoir que possédait Israël comme peuple élu de Dieu engendrait la prétention de contrôler l'action divine. Les Israélites ont pratiquement à chaque génération cédé à la tentation de vouloir manipuler Dieu, de traiter Dieu comme leur propriété. Vous voyez, c'est très ambigu. Il est notre Dieu. Il est notre Dieu, ça veut dire nous lui appartenons. Mais très vite, on glisse et ça devient, il est notre Dieu, il nous appartient et donc il doit fonctionner comme nous voulons le faire fonctionner. Et Jésus montre qu'au temps d'Élie, c'était comme ça. Et aucune veuve n'a été secourue dans le pays d'Israël, mais une veuve païenne, une veuve non juive, non israélite, sur la côte phénicienne, sidonienne, la veuve de Sarepta. Et il y avait beaucoup de lépreux. C'était peut-être pas la maladie de Hansen, hein. C'était des dermatoses, mais qui rendaient impurs. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, aucun d'eux, au temps d'Élisée, n'a été guéri. Mais ce général syrien qui avait fait la guerre à Israël, ce général syrien Naaman, là, Dieu a choisi de le guérir. Jésus souligne la liberté de Dieu, la liberté de la miséricorde de Dieu envers ceux qui se savent pauvres et sont droits devant Dieu face à l'attitude qui a été si commune parmi les siens. Parmi les siens. Jésus démasque ainsi la racine empoisonnée sous l'ambiguïté des réactions des personnes présentes dans l'auditoire. L'ambiguïté sous la question qu'il pose, n'est-ce pas, le fils de Joseph. D'où leur rage. L'auditoire attentif se mue en foule folle de haine contre Jésus, allant jusqu'à vouloir le faire mourir. Quand il nous est dit tous dans l'Écriture, c'est une généralisation. Ce n'est pas tous sans exception. Il y a des exceptions que la grâce de Dieu produit très très souvent. On peut le lire. Même à Nazareth, nous ne pouvons pas exclure qu'il y ait eu des gens qui n'aient pas partagé la folie des furieuse de la plupart. Parmi les Israélites, alors c'est très clair, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, dit le premier chapitre de Jean. À tous ceux qui l'ont reçu, il y en a quand même. Il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu, de devenir enfant de Dieu. Il y a, par la grâce de Dieu, des siens qui se détournent de l'attitude négative spontanée et qui se tourne vers Jésus. Je pense qu'il n'est pas exclu que la manière dont Jésus échappe au projet meurtrier de ses concitoyens soit comme une prophétie de cette ouverture. Ils veulent le tuer, mais il passe au milieu d'eux. Nous ne savons pas ce qui s'est passé. Comment ça s'est fait exactement, hein? Est-ce qu'il y a quand même eu des gens plus raisonnables qui sont venus dire, est-ce que il nous semble, à lire cette phrase, que c'est l'autorité rayonnante de Jésus, la majesté de sa sainteté rayonnante qui fait qu'il n'est pas osé mettre la main sur lui. Mais en tout cas, c'est une prophétie de la manière dont Jésus, quand ils l'ont mis à mort, car finalement, les siens ont exécuté le projet de le tuer sur la croix. Comment Jésus a traversé cette épreuve dans toute la majesté de celui que la mort ne pouvait pas retenir, les liens de la mort, il n'était pas possible qu'il le retienne, car il était le Seigneur. La manière dont Jésus passe au milieu de la foule est comme une prophétie de sa résurrection. Et cette résurrection, elle signifie la possibilité pour des gens qui ont d'abord mal réagi, de se tourner vers lui dans la repentance et de recevoir de lui la libération, la remise totale de toute la dette des péchés, le recouvrement de la vue, la joie du salut. Jésus l'a fait pour ses frères. Ce qui vous prouve bien que ce que je vous dis est conforme au Nouveau Testament. Ses frères qui ne croyaient pas en lui, qui disaient même il est fou. Ses frères, il s'est montré à eux, ressuscité, et ils se sont convertis à lui. Ils ont eu la grâce d'un changement de cœur. Ils ont accueilli le pardon de Dieu et ils sont devenus des piliers de l'Église. C'est dit pour Jacques, le frère, pilier de l'Église de Jérusalem. Voilà qui nous atteste que tant que l'aujourd'hui de la grâce retentit, il est possible de se tourner vers lui et de recevoir de lui la pleine délivrance. Amen.